never die.
Nerf this.
Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 72, Altiron au micro. Très très heureux de vous retrouver pour cette preview de la saison 3. Je suis avec Atao, d'abord Atao qui est en face de moi, c'est exceptionnel, mais c'est vrai, salut Atao.
C'est beau, c'est vrai, il y a juste un micro qui nous sépare maintenant, donc ouais, très content d'être là pour discuter d'Overwatch. C'est une première, donc c'est cool.
Et bien sûr, on est quand même avec Shabba, il n'est pas physiquement avec nous, mais il est avec nous par la pensée et la connexion internet. Salut Shabba.
Salut, en direct de mon micro, ça va très très bien, on est chaud aujourd'hui.
C'est dans le sud ça, mon micro, non?
Ouais.
Ok, génial. Messieurs, on va passer en revue. Quelle blague toute pourrie, je suis désolé de commencer l'année avec ça. Je m'en excuse. Messieurs, on va passer en revue les 10 équipes de la conférence Atlantique aujourd'hui. On fera la conférence Pacifique dans un prochain épisode qui sera diffusé dans la semaine. On fera un rappel donc de chaque effectif, de chaque équipe, enfin sur les effectifs de chaque équipe, vous avez compris l'idée, sur les forces et les faiblesses de chaque camp, et on vous expliquera rapidement la place à laquelle on voit l'équipe terminer en 2020, pour revenir un peu sur les power rankings qu'on a diffusés ce week-end. Et ben voilà, c'est facile, on va commencer tout de suite, si vous êtes d'accord, avec la division Nord. Oui, on fera division par division, puisque maintenant, c'est comme dans les sports américains, il y a des divisions, des conférences, c'est magnifique, ça ne sert à rien, mais c'est joli pour le public. Shabba, c'est bon pour toi? On est prêt, on y va?
On est parti!
Alors, messieurs, let's go. Messieurs, on va commencer, on va prendre dans l'ordre alphabétique du coup des équipes de chaque division. Oui. Et donc la première de notre podcast de preview, ce sera les Boston Uprising. Boston Uprising, alors c'est marrant parce que là sur internet on met qu'ils finissent 5-6ème l'an dernier, mais je crois pas que ce soit vrai. Hein. C'est peut-être la première saison, bref. Boston Uprising, alors un petit rappel sur les effectifs quand même. Shabba, tiens, est-ce que toi tu as les effectifs aussi sous les yeux, comme ça tu pourras suivre avec
nous?
Parfait. De toute façon, au poste, on va faire surtout les arrivées et les départs en fait de chaque équipe. Ce sera plus simple puisque normalement vous avez suivi un peu par rapport à l'an dernier. Donc là, cette année, en arrivée, il y a pas mal de monde. Il y a le tank Muinbong. J'espère que je le prononce bien.
Alors, Muinbong est un support. Hein.
Ah oui, c'est moi qui lis une ligne sur deux en plus. Mais heureusement que tu es là, c'était pour voir si tu suivais. Le DPS Jerry, le tank Muffin, mais finalement qui sera en two-way contract. Le support Swimmer, l'américain. Munchkin, le DPS qui est l'ancien de Seoul Dynasty. Et Brussen, qui est le tank néerlandais, dont vous a un peu parlé dans les previews Overwatch League 20 sur 20. Donc pas mal d'arrivées. Le truc, c'est qu'il y a surtout assez peu de joueurs de l'année dernière qui sont restés. Il n'y en a que 3. Mais il y a Fusion. Et on sait que l'an dernier, il avait été un peu la locomotive de cette équipe. Atao, est-ce qu'on peut bâtir autour de lui? C'est une bonne idée pour Boston Uprising?
On en avait déjà parlé déjà dans les tout petits épisodes qu'on avait fait pour préparer l'année. Et c'est vrai que sans doute qu'on va construire autour de lui. En tout cas, on essaye, dans la philosophie de Boston Uprising, on sait qu'ils essayent de toujours prendre des joueurs coachable. C'est toujours la stratégie. Et c'est vrai qu'avoir Fusion en tête de proue, avoir un joueur coachable et en plus qui a du charisme et qui est aussi qui a un fort leadership, c'est sûr que ils vont essayer de le prendre comme leader. Il y avait Askov dans une interview de Zaroid également qui il s'était pas encore établi parce que cette équipe malheureusement va arriver très tard au niveau de la préparation. Ils ont pas fait de bootcamp en Corée comme les autres équipes et ils vont commencer très tard, donc 2 semaines avant, ce qui n'est pas grand chose pour créer en plus un effectif. S'il y avait une synergie avant, ça aurait été peut-être plus simple, mais là, il n'y a pas eu de préparation. Donc, je pense que ça va être assez compliqué. Sans doute que Fusion va être facilitateur, à mon avis, pour créer quelque chose de, on espère en tout cas, le plus solide possible, même si ça va être compliqué.
Shabba, cette équipe, elle manque quand même cruellement d'expérience. Déjà, comme dit Atao, ensemble, mais de manière générale, non?
Oui, complètement. On a une équipe qui a pas de synergie évidente. Les seuls joueurs qui étaient ensemble, voilà, pour rappeler, c'était Fusion, Axiom et Colorex, sachant que Axiom était main tank remplaçant, donc lui-même, il a pas spécialement joué en même temps que ses anciens coéquipiers. Puis après, voilà, c'est une équipe qui manque d'expérience de ce niveau-là. C'est beaucoup de joueurs contenders. Ça, c'est très bien, par contre, parce que ça prouve que c'est possible d'aller en Overwatch League quand on vient des contenders. Mais de notre côté, c'est une équipe qui va être très instable en termes de niveau et surtout un gros point d'interrogation avec, par-dessus le marché, une préparation de 2 semaines seulement. Pour leur premier match, si c'est la catastrophe, il ne faudra pas trop s'étonner.
D'autant que le premier match, ce sera contre New York Excelsior à New York. Ce sera le dimanche 9 février à 21h. Donc voilà, vous pouvez déjà cocher la date dans l'agenda si vous êtes fan de Boston. Ce sera pas facile. Cette équipe-là, sur votre power ranking, où est-ce que vous l'aviez mise? Moi, je vais être très honnête, je les ai mis derniers. J'ai peur que malheureusement ils souffrent un peu de ce manque de préparation et de synergie, et de toute façon ça colle un peu à ce que Boston nous a montré par le passé. C'est une équipe qui veut surtout promouvoir un peu les jeunes joueurs et pouvoir les revendre avec un profit dans les autres équipes. Ça a l'air d'être parti là-dessus encore, donc malheureusement le sportif passera peut-être au second plan. Où est-ce que tu l'as mis toi, Chava?
Pour moi Boston c'est 18ème, mais si ça finit 20 ça me choque pas. les mêmes arguments que toi, tu vois.
Très bien.
Moi je les ai mis derniers aussi, donc malheureusement, je pense que la préparation va leur coûter très très cher. Et pour l'instant c'est vrai qu'ils ont un effectif Overwatch League, mais ils n'ont pas un effectif, vraiment qui a des prédispositions à performer.
Voilà pour Boston, on passe au London Spitfire. Tiens, les champions de la saison 1, ça paraît bien loin tout ça. Champions de la saison 1, un rapide retour sur l'effectif. On va peut-être pas vous faire la liste de tous ceux qui sont arrivés, puisqu'en l'occurrence, il y en a quasiment 10. On peut juste vous dire qu'il y a Krillin qui est resté de l'an dernier, le joueur support, qui jouait quasi même pas d'ailleurs, je crois, l'an dernier. Et sinon, tout le monde arrive... Un peu de partout, il me semble qu'il y en a qui arrivent de Contenders Corée principalement. Oui. Shabba nous avait fait un magnifique document que je reprends. Voilà, il est là, magnifique. Un peu de Fusion University, si quand même. Bernard Refuse, Fusion University qui a eu beaucoup de succès dans les Contenders nord-américains, un peu moins dans les Contenders Corée. Il y a un peu de Runaway, un peu de Genji qui est l'équipe académie de Seoul Dynasty.
Les équipes académies en fait.
Ah oui, en plus il y en a plusieurs.
Trois équipes académies.
Genji, Genbi, Gen-S.
Ah ouais. Ça c'est les différentes. Ce qu'ils disaient, ils ont 3-4 équipes dans les Open Division et dans les Contenders, donc forcément ils sont allés chercher là-bas. Ils se sont appuyés sur le travail de scout de Seoul Dynasty.
Les points négatifs, on va peut-être pas trop revenir dessus parce que l'inexpérience est clairement présente. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme point positif? Moi j'ai noté le coaching staff quand même à Tao.
Bah, c'est sûr qu'on a un coaching staff qui... je pense qu'on est sur un... On a Agapé, c'est sûr qu'on ne peut que s'appuyer sur lui, en fait, finalement. Et Pavané aussi, c'est quand même un coaching staff qui est extrêmement solide. Et il faut s'appuyer dessus. En fait, c'est le seul facteur réjouissant de cette équipe. Et il va falloir s'appuyer dessus. Pas grand-chose d'autre à dire, mais pour l'instant, c'est sûr que sur le papier et de ce qu'on connaît de ces joueurs, de ces joueurs, c'est le problème, c'est ça. C'est une équipe qui peut complètement exploser. Parce qu'elle peut complètement se révéler, mais à mon avis, le chemin pour l'instant qui est pris, c'est plus que ça risque d'être très compliqué, en tout cas en début de saison.
Shabba, tu es d'accord? Le seul point réjouissant, c'est le coaching staff?
Ouais, voilà, parce qu'après, si on essaie de regarder qui a déjà joué en Overwatch League, ben Hailey a dû jouer deux maps avec Séoul et Krillin n'a pas joué la moindre map avec Londres. Donc c'est sûr qu'ils ont été dans une équipe Overwatch League, donc ils ont peut-être... vu des choses, on espère, comme ça il y aura peut-être au moins un petit quelque chose chez les joueurs, que ce soit pas que le coaching staff qui est cette expérience là de la ligue. Après voilà, comme l'a dit Atao, c'est une équipe, vu qu'on sait pas grand chose dessus, ça peut être une énorme éclosion de talent, tout comme un énorme flop quoi. C'est point d'interrogation maximum.
C'est pour ça qu'ils sont si bas dans le power ranking. Moi je les ai mis 18e, je vois qu'Atao tu les as mis 17e, ouais. Et toi Shabba 19e. Finalement ça fait une moyenne à 18 sur le power ranking général.
Vas-y, on commence par le haut de tableau pour ce...
Ouais, ça vous donne super envie de regarder cette saison 3. Non mais de fait on sait très peu de choses de cette équipe. Peut-être qu'ils vont surprendre tout le monde parce que leur scouting a été génial et que ça va marcher. Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, donc on les voit bas pour l'instant. Leur premier match à eux, eux aussi, ce sera leur premier match contre New York Excelsior. Ce sera le samedi 8 février à 21h à New York. Donc pas facile non plus, je crois que c'est le deuxième match de l'année, juste après celui de Paris et Toronto, donc voilà, vous pourrez suivre ça.
Premier déplacement pour des joueurs qui ont vécu en Corée, on sait que c'est toujours délicat.
Ouais.
Donc c'est ça va être beaucoup pour ces jeunes joueurs.
Équipe suivante, les New York Excelsior. Tiens, justement, parlons-en. Alors, c'est un petit peu plus réjouissant quand même au niveau de l'effectif du côté de New York. Il y a une bonne base de joueurs qui est restée de l'année précédente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelques recrutements. Odba, le tank. Bianca, un autre tank qui, je crois, vient de Excel 2. Et oui. Who Are You, le jeune DPS qui est censé être la future pépite. On a vu que New York n'avait pas toujours la capacité de gérer un peu les jeunes pépites comme on l'espérait, mais c'est censé être un peu plus réjouissant en tout cas du côté de New York à ce niveau-là. L'effectif est sympa quand même, Shaba. Il y a des jolis noms.
Ah oui, du côté de New York, c'est quand même de très jolis noms. Voilà, un petit bémol, comme on disait dans Overwatch League 20/20, par rapport à Odba, parce qu'on perd Meko, qui était un immense calibre à son poste, pour un joueur qui a du potentiel, qui a des capacités, mais qui n'a jamais su les exprimer pleinement ou qui n'a jamais été régulier dans sa manière de jouer, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un peu point d'interrogation pour Odba. Après, Bianca, c'est du recrutement très solide en termes d'off-tank. Pouariou, pareil, c'était le jeune joueur à ramener. Mandu aussi, le main support qui vient d'O2Blast, très très solide, qui pourra beaucoup apprendre auprès d'Anamo. Donc vraiment, ils ont une belle line-up, ils ont toujours cette flexibilité au niveau de leurs joueurs. C'est comme d'hab, New York, ça, c'est une équipe qu'on va attendre encore.
Mandu, que tu mentionnes, il aura 18 ans seulement en juin, donc il ne pourra pas participer au début de la saison. Mais effectivement, il apportera ensuite sur le poste de support. Moi, il y a toujours une question que je me pose au niveau des DPS. On a vu que l'an dernier, ce n'était pas forcément simple à gérer. Il y avait des joueurs qui perdaient beaucoup de temps de jeu. Atao, comment on va faire cette saison?
En fait, c'est Who Are You, on a fait le ménage. Pine, par exemple, qui est parti. Enfin... Ils ont des joueurs qui sont très forts. Enfin, c'était très intéressant le passage donc dans le power ranking de Zarowitz, c'était Hammerkick. Enfin, ils se sont beaucoup. Il y a eu beaucoup de discussions. C'était hyper intéressant sur ce sujet-là parce que c'est une équipe. On sait qu'elle va performer. Ça, c'est évident. C'est encore une équipe qui va truster probablement les hauts tableaux. Mais est-ce qu'il y aura encore ce plafond de verre finalement? Et ça va se jouer sur la ligne de DPS et sur la révélation de Who Are You sur cette saison. Si Who Are You déçoit, et ce qui peut arriver dans les joueurs stars coréens, et c'est déjà arrivé, on a eu DK par exemple, qu'on attendait tous et qui n'a pas performé à Los Angeles Gladiators. Là, quand même, c'est Who Are You. Il a bien performé sur la scène T2 en Amérique du Nord, mais attention, ça reste l'Amérique du Nord. Ouais. Et c'est bien ce qui m'inquiète, on va dire. Donc je pense que c'est. Une équipe qui peut très bien performer, mais pour moi c'est une équipe aussi qui peut rester en fait au stade où elle va sans doute pas descendre, mais rester au stade où elle en était l'année dernière et l'année encore d'avant.
Shaba, tu les vois où dans ton power ranking?
Alors, il me semble bien que chez moi c'était deuxième New York Excelsior. Ouais. Deuxième parce que je pense qu'avec le Caflower l'année dernière où ils avaient misé beaucoup dessus en termes de jeunes pépites qui devaient porter l'équipe vers de nouveaux sommets, ils ont appris de la gestion de ce cas. Et je pense qu'avec Who Are You, ils ne feront pas les mêmes erreurs. Donc, il sera mieux entouré. Et puis, sur la fin de saison, surtout, on a vu un Sabiolbi exceptionnel de charisme et de leadership avec Flower et avec le reste de l'équipe. Donc, je pense que si en s'appuyant là-dessus, vraiment, on peut prendre cette deuxième place et viser vraiment le titre sur les playoffs.
Mm-hmm. On verra pour eux ce que ça donne. Atao, tu les as mis...
Troisième, c'est... Enfin, deuxième, troisième, pour moi, c'est voilà, une saison, comme j'ai dit, où ils ont performé, mais ils n'ont pas réussi à aller chercher à être la top, top équipe, quoi.
Moi, je les ai mis quatrième, pas parce que je les vois moins bien, mais parce que je pense que les autres équipes se sont un peu plus renforcées. Au-dessus, on reviendra... c'est que des équipes de l'autre division. Bon, mais c'est pas grave, on en parlera la prochaine fois. Et eux, leur premier match, on l'a mentionné tout à l'heure, ce sera contre London Spitfire, donc le samedi 8 février à New York. New York qui sera le premier homestand, du coup, de cette saison 3.
Ça
le 8
une
février à 21h.
Ouais, enfin, ça serait un bon test pour voir quel niveau ils sont, mais... Ouais. Sur le papier, normalement, c'est une formalité.
Ce sera intéressant de voir qui ils font jouer, justement, au poste de DPS. Voilà pour New York. L'équipe suivante, c'est Paris Eternal. Cocorico, notre équipe parisienne. L'équipe parisienne qui a eu pas mal de changements par rapport à la saison précédente. Mm-hmm. On l'a dit, vous le savez. On a complètement laissé tomber le projet 100% européen. Il y a toujours une bonne base européenne, il y a quand même 5 joueurs français puisqu'il y a le support FD God qui est arrivé, que vous aviez vu jouer en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Moi, j'ai quand même le sentiment que ce choix d'intégrer d'autres nationalités et surtout les joueurs coréens, même s'il n'y en a pas beaucoup, puisqu'en début de saison, il n'y en aura que 3. Je crois que Han Bin va avoir 18 ans la fin, début février, donc il ratera juste le début. Pour Sparkle, ce sera en mai, donc c'est un autre problème. Mais voilà, il y aura un peu d'internationalisation qui viennent de la Corée. Il y a des joueurs qui sont là, qui vont jouer quand même, hein, que ce soit les supports, notamment, je pense que Cruz et Gray aujourd'hui sont plutôt en place. Je sais pas si FD God aura sa place de titulaire tout de suite, ça me paraît difficile, mais bon, au moins il sera dans l'effectif. Atao, ce roster un peu plus ouvert, c'est une bonne chose pour Paris Eternal?
Bah on peut, oui, c'est sûr que le coaching staff est assez réjouissant quand même, avec l'arrivée des coachs provenance de San Francisco Shock, donc on peut imaginer que on est quand même une équipe assez déjà un coaching staff assez solide. Après, j'espère que sur la durée, il n'y a aucun, on va dire, européen dans le coaching staff. Donc ça peut paraître, je pense, sur une longue saison, ça peut paraître un peu dur aussi de ne pas se reposer sur quelqu'un de la même culture que soi pour pouvoir discuter, etc. Parce qu'on sans doute que les méthodes de management aussi sont différentes. Le fait qu'on ait perdu Fefe, Alblaise, Seta, tout le monde est parti, Kaikai aussi, ça joue. Donc à voir comment ça va peser sur cette équipe. Pour revenir sur l'effectif, je trouve que ça reste un effectif qui est, ma foi, intéressant, mais qui risque de souffrir en début de saison. C'est sûr que l'arrivée de Sparkle, après, risque de remplacer un des DPS comme Nico ou Soon. Mais pour moi, c'est une équipe qui va encore une nouvelle fois jouer le... Au vu comment les équipes sont renforcées cette saison, c'est encore, pour moi, ils risquent de jouer les mêmes places qu'ils ont joué la saison dernière, malheureusement.
Shaba, justement, ces Français qu'on scrute tous, comme on les Français aussi, hein, c'est assez logique. Quel va être leur rôle dans cette équipe-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur place quand les Coréens seront en âge de jouer?
Alors, vaste question, parce que les perfs en scrim, on n'en a pas forcément idée de comment ça se passe, mais je pense qu'aussi, en dehors du pur skill in-game, là où les joueurs français vont être importants, c'est qu'ils ont déjà vécu une saison d'Overwatch League. Donc certes, il y a les déplacements qui sont le facteur supplémentaire cette année, mais dans l'idée, ils ont déjà connu une saison complète, ils savent à peu près à quoi s'attendre en termes d'intensité, ils savent surtout que ce sera encore plus que ce qu'ils ont connu, donc essayer de mettre un petit peu les jeunes Coréens dans le bain, parce qu'il faut rappeler qu'Element Mystic, c'est pas l'équipe complète qui est arrivée, c'est juste une partie de l'équipe, et c'est toujours point d'interrogation quand... Quand on scinde comme ça un roster sur différentes structures, tout le monde n'a pas, on va dire, les moyens ou le luxe de pouvoir se récupérer un roster complet comme l'ont fait Vancouver en saison 2. Donc c'est vrai qu'il y a ouais, voilà, c'est ça.
Il y avait Florida Mayhem en saison 1.
Oui, ah, oui, les Misfits, d'accord.
Les grands Misfits.
Après, ils ont rentré avec le roster, c'était encore différent.
Oui, c'est vrai. L'intégration sera importante. Je pense que les joueurs français auront un très grand rôle à jouer là-dedans. Et après, sur le temps de jeu, ça dépendra, mais je pense vraiment en termes de support, je pense que les deux Français ont un coup à jouer, parce que ce sera une bataille exclusivement européenne pour les places de support. Puis Soon, on sait que c'est un bosseur, donc il sera toujours à la bagarre pour jouer. Nico, c'est pareil, c'est un bourreau de travail. Donc je pense qu'on a quand même de bonnes chances de les voir jouer pendant la saison.
Finalement, c'est peut-être Ben Best qui est aujourd'hui le plus bloqué dans cet effectif-là, dans la mesure
un
où...
Un petit peu, ouais.
No Smite et Smex, Smex en début de saison, mais peut-être ensuite Hanbin très vite, vont peut-être avoir les préférences du coaching staff. On verra ce que ça donnera.
Et Ben Best, hein, c'est quand même le français qui est... Enfin, il a des matchs vraiment sans, quoi. Quand il y a des matchs sans, c'est sans. Hein, et c'est assez terrible. Ben Best, c'est très compliqué pour lui. Hein, la saison dernière, c'était quand même quand il faisait des matchs, il a quand même pris... Il prenait quand même sacrément cher. Donc je trouve que la concurrence qu'il va avoir, ça va être très compliqué pour lui, à mon avis.
Ça va être bien et compliqué à la fois. Hein.
Oui, ça peut le booster aussi. Il faut, voir aussi comment il réagit. Mais effectivement, c'est pas la place la plus simple. Le classement pour l'an prochain, qu'est-ce qu'on a mis? Je suis en train de regarder un peu. Ah, on les met. Ah non, tiens, Shaba, toi, tu les mets juste à la limite des play-in.
13e, ouais, la place du. Voilà.
La place de l'idiot, pour rester poli.
Exactement. Non, mais il y a du potentiel. Après, c'est sûr que c'est très dépendant de comment vont jouer les autres équipes aussi. Donc 13e, c'est la place que je leur donne sur le ranking. Mais Tout peut bouger très vite et je pense que le milieu de tableau, genre de 10-11 jusqu'à 16, peut être vraiment resserré. Donc ils ont toutes leurs chances pour attraper les play-ins, ça c'est sûr par contre.
Ouais, moi je les ai mis 12e juste histoire de dire qu'ils font les play-ins, mais effectivement je sais pas s'ils feront beaucoup mieux. Tiens, t'as été un peu plus optimiste.
Ouais, je vais être optimiste avec eux. Je crois dans le coaching staff et je crois que les Français restent quand même des joueurs. Chez DPS et les supports, restent des joueurs qualitatifs.
Donc 10e pour toi. Écoute, oui, ce sera probablement dans ces eaux-là. Leur premier match, ce sera contre Toronto, dont on va parler juste après. Et ce sera samedi 8 février à 19h à New York. Ce sera le match d'ouverture de cette saison 3. Donc voilà, on aura la chance de pouvoir regarder ça ensemble. Il me semble qu'il y a des viewing parties qui sont organisées sur Paris notamment. N'hésitez pas à regarder, à vous renseigner un peu si vous voulez vivre l'expérience supporter tous ensemble. J'avais été en faire un l'an dernier, c'était très sympa, donc n'hésitez pas, le Rooster Club qui organise ça, évidemment, le fan club officiel des Paris Eternal. La dernière équipe de cette division nord-atlantique, ce sont les Toronto Defiant. Les Toronto Defiant, qui est une équipe dont on a beaucoup parlé cette intersaison, puisque il y a eu un gros revirement francophone dans le coaching staff, notamment, même s'il y a quelques joueurs qui doivent parler un peu français. Logix, il parle français.
Il est pas belge francophone de base, mais il comprend bien et il parle à peu près correctement.
Eh bien, en tout cas, dans le coaching staff, ça parle français. On vous le savez, Fefe est devenu head coach. Lilbo sera coach stratégique. Et Albless, team manager, le rôle qu'ils avaient d'ailleurs, Fefe et Albless, chez Paris Eternal. Et on l'a dit, ils joueront leur premier match contre Paris Eternal, comme quoi tout est bien fait. L'effectif là-dedans, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu beaucoup d'arrivées cette intersaison. Il y a eu Karrive et Agilities, les deux, le duo un peu iconique de Los Angeles Valiant en support DPS qui sont venus. Il y a Beast Halo qui s'est renommé en Beast, qui est arrivé en tant que tank. Il y a Surefour aussi, qui est arrivé depuis Gladiators. Et Kellex, il était également chez Boston Uprising, c'est ça. Et Nevix, lui, qui était chez San Francisco Shock.
Le bench player,
c'est lui. voilà, il y a du beau monde. Et on a fait un peu le ménage. Quand on a fait les chroniques Overwatch League 20 sur 20, il y avait un peu de monde sur le poste de DPS, finalement. Il y en a qui ont pris la porte. Et Mangachu qui est parti en two-way contract. Donc le ménage a été un peu fait. Ça, c'est un roster et un coaching staff qui sont solides, qui ont de l'expérience en Overwatch League et qui voilà, savent à quoi s'attendre. Est-ce que Shabba, c'est suffisant, on dira, pour jouer les premières places l'an prochain?
Alors, les toutes premières places, pas nécessairement. Après, c'est certain qu'il y aura une nette amélioration par rapport à l'année dernière. La grosse interrogation que je vais avoir, en fait, ça va être au niveau de la ligne de tank, genre tank support, en fait. C'est sur frontline, backline, on a deux joueurs qui sont assignés, trois si on compte que Rocky est entoué pour les supports. Mais disons que si jamais il y a un tank qui a un coup de mou ou un truc comme ça, bah il n'y a pas vraiment de solution de repli. C'est pareil du côté des supports et ça m'inquiète un petit peu parce qu'on a vu beaucoup d'équipes passer sur des rosters à 10, 11, 12 joueurs pour pouvoir avoir justement cette adaptabilité au niveau de tous les postes pour pallier à un souci de santé, une baisse de régime. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu mon souci avec ce roster de Toronto, sinon après c'est costaud, hein. Ça donne envie de les regarder. On sait que c'est des joueurs qui sont assez spectacles aussi pour la plupart. Agilities, c'est flashy. Sur Four et Logic, c'est des monstres du hitscan. Il y a Karrive très fort en support. Enfin, il y a plein de choses. Et Yann Evix, qui est champion de la saison 2 en ayant joué 5 maps dans toute l'année. Donc, clairement, très très hâte de le revoir jouer. Parce qu'en saison 1, il avait quand même été dans la galère San Francisco Shock. Donc, c'est qu'il retrouve une équipe où il va pouvoir s'exprimer, c'est cool.
C'est vrai, tu mentionnes qu'il y a certains postes qui sont légers. On regarde en même temps avec Atao l'effectif de Montréal Rebellion, parce qu'on sait que l'équipe académie de Toronto Defiant aura des liens assez resserrés avec l'équipe mère, si je puis dire. D'ailleurs, c'est Vrath qui est coach de l'équipe. Team manager. Vrath est coach. Ah oui, Albless sera même team manager. Albless, il est partout. Albless. Donc voilà, au pire, ils pourront toujours s'appuyer peut-être sur des joueurs qui pourront faire monter. Je vois qu'il y a Chou en tank ou Shane, je ne connais Shane, le tank Shane, canadien. Bon voilà, c'est remarque, j'allais dire il y a peut-être Dridro aussi sur le poste de support, mais il n'aura pas encore l'âge légal.
Il est trop jeune.
Et oui, terrible. L'an prochain Dridro. Bon mais voilà, je suis d'accord avec toi Shabba qu'il y a des postes qui sont un peu légers. Faudrait pas que ça leur pose problème. Maintenant, les recrutements sont ouverts toute l'année ou presque. Donc voilà, c'est
effectif. Jusqu'à juin, je crois. Comme ça
je sais plus exactement, mais juste avant les playoffs normalement. Ouais. Donc ouais, bon, cet effectif n'est pas définitif côté Toronto, et je pense que le staff fera ce qu'il faut si jamais il y a besoin de renfort à certains postes. Qu'est-ce qu'on leur a donné comme place l'an prochain? Moi, je les ai mis 8e parce que bon, voilà, c'est une équipe qui a du potentiel, mais effectivement, si l'effectif reste tel quel aujourd'hui, ça pourra pas aller jouer plus haut à mon avis. Atao, qu'est-ce que tu leur prédis?
Moi, j'ai mis 6e. Je crois à la belle aventure, en fait. Voilà. Je crois à la belle aventure parce que je crois dans le travail de Féfé. Et pour moi, c'est une équipe... Enfin, je trouve que c'est une équipe qui est sur four, qui est à l'intérieur. Je trouve que c'est un très bon joueur. Et c'est un très bon joueur qui est capable d'emmener son équipe en play-off, à mon avis. Donc, c'est pour ça que moi, je les vois top 6. Mais c'est pour ça que je les vois... Mais après, je trouve que sur four, c'est aussi un plafond de verre. C'est un très bon joueur, mais c'est pas dans les top joueurs de, c'est pas les... dans le top 3 des jeux, c'est pas dans les top DPS non plus des équipes comme Vancouver ou on a New York, Excelsior et voilà. Donc, mais je trouve que c'est une équipe qui, si une synergie est faite, voilà, c'est toujours ça pour moi. Si l'effectif réussit à fonctionner, ben pour moi, ça devrait être, pour moi, ils peuvent aller à ce niveau-là. Ouais.
Shabbat, tu les as mis 9e.
Ouais, c'est top play-in et pourquoi pas play-off. Je pense qu'en haut, il va y avoir un sacré embouteillage de talent avec oui. beaucoup d'équipes. Donc déjà, attraper les play-in, ce serait une énorme step-up par rapport à la saison décevante de 2019. Et puis, bah, s'il peut y avoir une petite cerise sur le gâteau en attrapant une 8e place...
On la prend volontiers.
Évidemment.
Leur premier match, ce sera contre Paris Eternal, on l'a dit, le samedi 8 février à 19h à New York, le match d'ouverture de la saison 3. Donc vous ne pourrez pas le rater. Voilà pour la division Nord. On se fait un petit jingle avec un joueur dont on a parlé, tiens. Et on enchaîne ensuite avec la division Sud.
Salut, c'est Yip, le Benchplayer, merci d'être là, vous êtes toujours sur Nerf This Podcast.
Et oui, ce bon Yip qu'on avait croisé à l'Apéricis, le Benchplayer comme il aime s'appeler. C'est pas nous qui l'avons forcé, hein. Promis, c'est lui qui a dit ça tout seul. On continue donc avec la division sud de la conférence Atlantique, les 5 équipes suivantes, et on commence par un peu les rivaux, tiens, de Paris Eternal. Finalement, au fur et à mesure de la saison, il y a une petite rivalité qui s'est mise en place, les Atlanta règnent, l'effectif a pas mal bougé aussi par rapport à l'an dernier. Oui, il y a pardon, c'est des joueurs qui étaient arrivés en cours de saison l'an dernier.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que je suis confus par le 2019. Il y a Oak qui est arrivé, le tank américain, Edison, un DPS coréen, et Sharp, un DPS suédois, une petite pépite européenne. Et sinon, oui, on garde un effectif qui est assez complet avec des joueurs qu'on a vu performer en playoff l'an dernier. Je pense notamment à Dogman, Massa, Popo, Baby Bay aussi, qui a peut-être pas été aussi fort qu'il l'était en saison 1, mais qui voilà, a rempli le rôle qu'on attendait de lui. C'est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Moi, je trouve que c'est une des équipes qui a fait peut-être une des meilleures intersaisons en termes de recrutement, dans la mesure où voilà, ils ont renforcé un peu les postes sur lesquels c'était léger, et le reste n'a pas besoin non plus d'aller faire des énormes transactions. Je regarde un peu l'effectif du coaching staff aussi, mais ça n'a pas trop changé non plus. Ils pensent qu'ils peuvent faire au moins aussi bien que ce qu'ils avaient l'an dernier. Atao, est-ce que tu penses qu'ils ont eu raison? Il fait la moue, il n'est pas d'accord.
Je sais pas, cette équipe-là, c'est... Tout le monde dit que c'est un bordel organisé. Il y avait Silence qui était donc assistant, donc assistant coach, le français, qui a donné sa première interview à Zaroïd la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui parlait de la manière dont était coachée l'équipe. Je sais pas si cette équipe est capable d'être bon sur toute la saison. Voilà, c'est la question que je me pose. C'est une équipe, c'est vrai, qui est capable d'emballer les matchs. Et souvent, voilà, c'est un peu, enfin c'est vraiment le snowball, quoi. Elle peut snowball vraiment quand elle arrive à emballer les matchs, à peser psychologiquement aussi sur les équipes adverses, et c'est vraiment ça aussi, ça compte beaucoup quand on a un Dogman qui trash souvent, un Fred qui se balade en Birkenstock, c'est vrai que ça marque les équipes, mais moi je la vois pas, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui s'est pas forcément renouvelée, et j'ai l'impression que c'est une équipe aussi, beaucoup de gens vont s'en méfier et vont s'y attendre à leur style de jeu un peu chaotique. Voilà.
Ah ouais, effectivement. pourquoi pas. Chabat, moi je vois quand même une petite faiblesse au poste de support quand même, parce que certes Massa est fort, Dogman aussi. Bon, moi je l'aime pas, mais il peut avoir ses éclairs. Faut que j'arrête de dire ça parce qu'on va croire que je le déteste. C'est juste que bon, je suis pas fan du joueur. Le fait est que il y en a que deux dans un effectif aussi rempli, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, notamment avec Toronto sur d'autres postes. Ça peut faire un peu juste.
Ouais, ça peut faire un peu juste, et on voit qu'ils ont déjà fait monter des joueurs de leur équipe académique. L'année dernière, on a Gator qui est arrivé pour les playoffs. Cette année, il y a Hawk qui monte aussi depuis l'équipe académique, qui a fait un très beau run sur le Gauntlet d'ailleurs. Mais là où ils ont fait alors une erreur, où est-ce qu'il y avait trop d'argent en jeu, c'est d'avoir laissé partir leur jeune support britannique, grand joueur de Lucio aussi, Fanny Astro, qui est allé grossir les rangs de Philadelphia Fusion. Et ça, pour le coup, ça aurait été un super pick pour étoffer leur ligne de support sur cette saison 2020. Donc dommage. Après, comme on l'a dit tout à l'heure pour d'autres équipes, il y a encore du temps pour recruter des joueurs. Donc peut-être qu'il y aura une petite pioche made in Atlanta pour renforcer tout ça. Mais c'est vrai que ouais, côté support, c'est... c'est un petit risque de se lancer dans une saison aussi éprouvante avec seulement deux supports, et je sais pas qui sont les supports actuels de l'équipe académique, mais je suis pas sûr que ce soit des backups d'un niveau vers Washington.
Eh bien, je vais pouvoir te renseigner dans une demi-seconde, puisqu'aujourd'hui, c'est Karkar, un Américain, et le Japonais Haku qui sont les supports de l'équipe Atlanta Academy. Ouais.
Voilà. Ça m'a l'air un peu limite pour le Grand Watching pour le moment.
Si tu as entendu parler d'eux, n'hésite pas à nous en faire une petite analyse. Et sinon, on va devoir se contenter juste de leur nom. Je savais même pas. Il n'y a pas de joueur japonais en Overwatch League aujourd'hui.
Non,
il n'y
en
a
pas du
voilà.
tout.
Non, bah voilà. Si Haku fait la montée, il sera le premier. Ouais. Moi, je les ai quand même mis 11e parce que. Même s'ils ne sont pas énormément renforcés par l'an dernier. En fait, je trouve qu'au-dessus d'eux, ça s'est beaucoup renforcé, mais je ne crois pas que ce soit vraiment affaibli. Donc oui, ils perdent un peu des places, mais c'est surtout du fait que d'autres équipes sont meilleures qu'eux. Ah oui, alors c'est marrant, parce que du coup, je suis en train de réaliser qu'on n'a pas du tout le même classement pour eux. Toi, tu les as mis 8e, Chabat, ok.
Ouais.
Mais tu y crois, donc?
Bah, franchement, l'équipe a montré de super choses avec l'arrivée de la 2-2-2. Ça reste sur un format de 2-2. Je pense que c'est ce qui convient le mieux parce que toute l'année, un type comme Erster s'est ennuyé, entre guillemets, à jouer Brigitte. Alors que dès qu'il est passé sur des picks DPS et vu qu'il a une palette de picks qui est impressionnante, je pense que peu importe la méta, lui, il va perfer en fait. Et Edison est sur un profil assez similaire. Sharp est très très fort aussi. Enfin,
faut qu'il
je pense
joue.
Que vrai... je... ouais, voilà. Sur tout ça. Bien sûr. Mais dans l'idée, je pense vraiment qu'au niveau des DPS, ça va encore faire très très mal au niveau d'Atlanta. Voilà. Et juste cette interrogation au niveau des supports. Sinon, je pense que je les aurais mis peut-être même un petit peu plus.
Ah oui, d'accord. Bon bah, et toi, Tao, c'est 13e. Oh là.
Ouais, oui. C'est.
Ah, c'est la guerre.
Non mais ton argument tient complètement la route, Chabat. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que, enfin, je vois d'autres équipes. Pour moi c'est le style de jeu de l'équipe, à voir si voilà, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui peut performer et peut, pour moi c'est clairement une équipe qui peut se retrouver 8ème comme elle peut se retrouver 13ème en fait.
Ouais, non mais je suis d'accord hein. sur le principe, le chaos, c'est ça le principe hein.
C'est les aléas d'une saison quoi, surtout quand on joue dans un style de jeu un peu chaotique. Ouais.
Il y a un élément à prendre en compte, messieurs, c'est qu'ils vont commencer leur saison en semaine 4 seulement, contre Toronto le 29 février à 23h. Ce sera les matchs se joueront à Houston. Et en fait, ils n'y jouent pas du tout avant, donc peut-être que d'ici là, ils ont le temps de voir un peu comment ça se joue, de peut-être aller recruter un support, à voir à ce moment-là comment ça se passera pour eux, mais leur saison, eux, ne commence pas tout de suite. L'équipe suivante, les Florida Mayhem, tiens, les Florida Mayhem qui viennent de refaire toute leur panoplie de couleurs. Moi, alors déjà, on va couper court à toute polémique. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire qu'ils ont copié les Angels Park. Les couleurs de Florida Mayhem rose, bleu et noir comme ça, c'est les couleurs de Miami Vice. C'est une émission des années, c'est une série des années 70. Donc maintenant, voilà. Ça suffit de...
Ah, on a blessé quelque chose là.
Mais non, mais moi j'adore. En plus, je suis hyper fan de ce set de couleurs, et leur maillot 3ème l'an dernier était magnifique, je trouvais.
C'est vrai.
Et du coup, de voir qu'ils partent là-dessus, franchement, c'est mieux que McDonald's
c'est
qu'on
bien.
Avait.
À défaut d'avoir une équipe.
Voilà, au moins on vend des maillots.
Merci. Alors, comme ça, on sait comment on axe un petit peu notre discussion sur Florida, ça fait plaisir.
Non, honnêtement, le roster a pas trop changé par rapport à l'an dernier. Il y a eu seulement deux arrivées. Un DPS, alors il y a que des joueurs coréens, donc il y a Yaki, le DPS, et Gangnam Jin, le support. Et surtout, on a fait partir un peu des joueurs qui... traînait dans l'effectif, on va dire, Agopun, je sais pas comment faut le dire, mais à chaque fois j'entends des prononciations différentes. Mmh. Bon, Agopun, Rain, Zephyr, DPI, Swan aussi qui est parti, SNT qui était parti en fin de saison aussi. Ouais. Enfin voilà, on a écrémé un peu l'effectif et à défaut d'avoir des joueurs stars en dehors de Saya Player, au moins il y a de la stabilité à Tao.
Oui, enfin.
Oui, progresse petit à petit.
Je suis d'accord. Cette équipe m'inspire rien du tout, comme d'habitude en fait. Et ça continue. Il y a Saya Player, c'est bien, mais c'est pas parce qu'il y avait Saya Player l'année dernière que ça a performé pour autant. C'est un jeu qui se base sur le collectif, donc forcément Saya Player, même si c'est un très bon joueur, c'est compliqué de rester performant. Après, bon, c'est vrai qu'on se renforce. On est en train de se renforcer, mais est-ce que ça suffira ? Enfin, c'est quand même une équipe qui est restée dans toute sa politique de recrutement assez décevante. Donc, pour moi, c'est une structure, c'est une franchise qui a tout à prouver, hein, vraiment.
Oui, bon, je suis assez d'accord. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'élément moteur là-dedans. Saya Player suffira pas à lui tout seul à tirer cette équipe en haut.
Qui me dit, ah, ok, là, cette année, pourquoi pas par rapport à l'année précédente, en fait. Voilà.
Shabba, tu es d'accord ?
Ah oui, complètement. Puis mettre head coach, moi, ça me pose quand même des questions, quoi. Je veux bien qu'il avait une certaine vision de jeu en étant main tank puis éphémère support chez Valiant, mais je sais pas, je trouve que c'est beaucoup de responsabilité pour quelqu'un qui est tout nouveau dans le coaching de lui donner une franchise Overwatch League à gérer.
Pour le coup, moi j'aime bien. Je vais avouer.
Le move intéressant, hein,
ouais,
ça c'est sûr.
Je trouve ça sympa. Après, peut-être que c'est beaucoup très vite. Mais après, il a coaché un peu en Contenders juste avant Cookie. Je suis en train de revérifier. Il a coaché Runaway l'an dernier, hein. Donc il sort pas complètement non plus. Mais bon, voilà. Et Runaway qui a fait en plus, je crois, une trop mauvaise place au Gauntlet. Ouais, voilà. Ils finissent 3e du Gauntlet.
Ils ont perdu en demi contre
Atlanta Academy.
C'est ça.
Donc bon, il a un peu d'expérience. Peut-être que c'est tôt, mais après, voilà, c'est un pari qui peut, s'il s'avère gagnant, sera vraiment un vrai coup de poker réussi. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent tourner en leur faveur. Ils ne feront pas, a priori, les play-in ni les play-off. Mais non. J'ai envie de croire qu'il y a une amélioration par rapport aux deux saisons précédentes où il n'y avait pas de direction. Là, tu te dis peut-être qu'il y en a une.
Enfin.
Qu'est-ce qu'on leur a donné comme classement power ranking ? Bon, on les a tous mis quasiment pareil. Ah bah, 17 pour toi et moi, Shabba. Et à Tao 18, bon, l'idée c'est fin de tableau parce que ça reste faible par rapport au reste de la ligue. Hein.
Il y a une progression quand même, hein, de la 20e à la 17e.
Oui, c'est... c'est bien. L'an prochain, ça fera peut-être 14. Allez, leur premier match, tiens, ce sera contre Houston, 15 février à 22h et ça se jouera à Philadelphie. L'équipe suivante, les Houston Outlaws, tiens, justement. Shabba se frotte les mains, on va pouvoir tailler les Outlaws, oui. Non, les Outlaws qu'ont fait une intersaison chargée.
Tu es
fan
de cette équipe, Shabba ?
Oui, ah bon ? Complètement.
Quelle surprise.
Oui, hein.
Intersaison chargée, puisqu'on a quand même recruté 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Donc Hydration qui arrive de... En plus, c'est des joueurs qu'on connaît déjà. Donc Hydration qui arrive de Gladiators. Blazé qui était chez Pricing. Rappel qui était chez Titans. Meko qui était à New York. Et Jexé qui était aussi chez Titans. Si je dis pas de bêtises. Séoul.
Ouais.
Pardon. Donc voilà, c'est des joueurs d'expérience en tout cas qui connaissent déjà l'Overwatch League. Là aussi, il y a peut-être un peu de monde qui s'accumule sur certains postes. Même si, bon, DPS, on a... Et Tank d'ailleurs, on a fait un peu le ménage. Mais tu le soulignes, à Tao, il y a 4 supports, quoi. Et puis, Boeing, Crocus, Rappel, Jexé, c'est pas les mêmes niveaux, quoi.
Non.
Donc, bon. Il y a un vrai point qui va te faire plaisir, Shabba. Je sens que depuis que tu as lu ce move, tu veux en parler dans ce podcast. On a fait un choix fort en termes de tank, puisqu'on a mis Coolmat sur le banc. Il va passer dans le coaching staff. Et peut-être que ça laisse enfin la place à Meko qu'il mérite.
Oui, Coolmat, il était cramé déjà l'année dernière. Ça se voyait qu'il avait plus le niveau qu'il avait pu atteindre en saison 1. Donc c'est bien qu'il passe assistant coach.
Ouais, attention, il passe logistics manager.
Qui passe dans le staff.
Non, mais je suis en train de regarder ça, c'est quand même bon. C'est vraiment histoire de dire on ne vire pas, mais tu viens.
On repasse les maillots.
C'est la famille, c'est pour ça.
Bien sûr, c'est le sang.
Mais Meko, c'est un super ajout. Et oui. Spree, je pense que Spree reste intéressant parce que c'est vraiment le spécialiste Zarya et qu'il y a toujours des sites de map où la Zarya peut être vraiment. comment dire, vraiment utile en fait. Et donc ça peut proposer une alternative sympathique et ou surprenante, comme à chaque fois qu'ils l'avaient tenté. Donc devant c'est bien, il faudrait peut-être juste un backup à Mouma, parce que Mouma ça a beau être un bon joueur, il a quand même le syndrome Houston Outlaws de l'inconstance et du ça va pas trop en ce moment, je suis pas dedans. Donc ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre au cas où. Donc peut-être que là, vu que Coolmat a libéré la 12e place de joueur, peut-être qu'il y a un main tank, on est en train de creuser la piste d'un main tank du côté de Houston. Sinon bah derrière, si Boeing joue pas, je suis heureux. Et au niveau des DPS, faut juste un petit peu de motivation du côté de Lingzer, puis le reste c'est assez complet au final, hein, ça couvre pas mal de possibilités en termes de pick.
Bah, mais tu vois, je vois Hydration qui vient, est-ce qu'il va vraiment jouer à Tao?
Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après c'est vrai que c'est un personnage,
enfin, même Blazé d'ailleurs, en fait c'est plus Blazé pour qui je suis inquiet, mais...
Ouais, c'est pour moi, je trouve que c'est vrai que c'est une équipe qui reste intéressante. Après il va falloir réussir à concilier tous les égos. On adopte un système hybride. C'est vrai que Mouma, comme tu le disais, Mouma, en fait, le moment où il était le meilleur, c'est vraiment quand il était en train dans son ascension, en fait, où tout le monde était en train de dire ah ouais, franchement, il est fort, Mouma, c'est un très gros tank, meilleur tank occidental et tout ça. Et depuis maintenant, il est vraiment en demi-teinte, quoi. Parce que et c'est vrai qu'il est en mode ouais, je me sens pas bien et tout ça. Bon, c'est vraiment c'est le star player main tank en fait en Occident, Mouma. Et il n'y a pas beaucoup de monde pour le remplacer, en fait. Et c'est les main tanks de qualité occidentaux. Ça,
super.
Ouais, super, ouais, mais... Enfin, pour moi,
est-ce que, je pense pas que le move soit faisable.
Non, non mais bien sûr. Mais aujourd'hui, dans les main tanks très forts western, ouais, il y a super. Et puis,
c'est tout, en fait. Enfin, il n'y en a aucun qui nous vient à l'esprit à part Mouma.
Du niveau de super, il n'y en a pas. Non, et juste en dessous, ouais, Mouma, éventuellement Fusions. Mais,
Fusions, ouais.
Ouais. Ça dépend le pic, après c'est toujours sur du Reinhardt, Fusions va être vraiment monstrueux, mais si tu passes sur du Winston par exemple, je mets Mouma un peu au-dessus, ou sur Ball, mais sur Orisa pas trop, tu vois, enfin c'est vraiment c'est pour ça qu'un deuxième main tank serait important.
Ouais. Parce que le poste de main tank c'est coréen, il y a beaucoup de coréens qui sont très bons en main tank, mais c'est vrai que dans le poste
Aguchué,
mais c'est vrai qu'en western c'est un poste qui est compliqué.
Effectivement, il aurait fallu que je sois joueur pro.
Allez, petite fleur.
Ouais, ça c'est pour moi. Le power ranking Houston, où est-ce qu'on les voit? Houston Outlaws, 13e pour moi, la place de l'idiot dont on parlait tout à l'heure.
Ouais, moi je les vois donc 14e, aussi dans cette zone-là, place de l'idiot. Voilà, il reste, pour moi, c'est pas une équipe qui me hype particulièrement, même s'il y a un renforcement d'effectifs. Ça c'est sûr, mais ça reste pour moi une équipe qui sera capable de faire des exploits cette saison, mais ponctuellement.
Et toi, Shaba, tout objectivement, tu les vois 11e.
11e. Alors 11e, oui, parce que voilà, dans le power ranking, évidemment, on met toujours un petit peu des sentiments qu'on a pour les équipes.
Puis, oui.
Le coaching staff, les moves du coaching staff me plaisent beaucoup. Récupérer Archa qui a fait cette belle saison avec Vancouver, ramener Oureg qui a vécu en tant que joueur cette saison-là, en termes de rappel qu'il a joué et qui du coup jouera aussi pour Houston. C'est des personnes qui ont du coup vécu une expérience de haut niveau avec une équipe qui jouait la gagne, et je pense que ça peut être que du positif pour une équipe qui s'était endormie en saison 2 en fait. Donc je crois dans ce coaching staff et au coup de pied au derrière que ça peut leur mettre.
Je suis d'accord, on n'a pas parlé d'Archa et c'est vrai que c'est un oubli. Effectivement, c'est un bon recrutement dans la mesure où il était coach assistant chez les Titans. Il a vraiment pris une bonne expérience, donc à voir ce qu'il peut apporter. Leur premier match, ce sera contre Florida Miami, on l'a dit, le 15 février à 22h à Philadelphie. Philadelphie, tiens, parlons-en, justement, les fusions. Oui, parce que je m'embrouille avec les feuilles en même temps, donc c'est terrible, tomber.
Les fiches.
Les Philadelphia Fusion, quelques moves aussi cette intersaison, pas mal de recrutement ou de re-recrutement, parce qu'on a fait revenir Ikuo après nous avoir fait croire qu'il était parti. Pas bien compris l'histoire,
mais incroyable.
C'est vraiment magnifique, quoi.
C'était un peu bizarre.
Franchement, c'était un plaisir de jouer avec cette équipe. Franchement, c'est super. Bah, en fait, je reviens.
Vous avez cru, hein, vous êtes trop bête.
La bouffe, elle est bonne, je reviens.
Ouais, les fameux cheese steak de Philly. Donc, Ikuo qui est revenu, Ivy, le DPS de Toronto Defiant qui vient, l'énorme joueur de off-tank Fury qui arrive de London Spitfire. Après, il y a Alarm qui vient de chez Fusion Academy, si je dis pas de bêtises. Funny Astro qui lui vient de Atlanta, qui était en two-way avec eux, et Shipsa, alors ça c'est la grande question,
c'est le coup de com' ça encore,
et Shipsa qui vient de nulle part.
Exactement, de Vitality.
Il vient de l'OTP Doomfist.
Ouais, c'est ça, de la Doomfist Academy, qui ne produit que des joueurs de Doomfist. On nous a fait croire. Academy, ouais. Non, mais on nous a fait croire qu'il allait jouer l'an prochain. C'est ce que tu disais à Tao dans Overwatch League 20/20, c'est que oui, s'il y a du Doomfist à jouer, il jouera, sinon il sera streamer. Ouais. Arrêtez de nous prendre pour des idiots.
J'avais posé la question à Fefe, il faisait un live FAQ et je lui demandais justement est-ce que on peut recruter, est-ce que c'est intéressant de recruter des joueurs qui sont spécialisés sur un pick? Et il m'expliquait globalement que non, c'était parce que les joueurs, parce que c'est pas rentable de recruter un joueur sur des méta qui peuvent changer quasiment à chaque stage. Et par contre, le seul personnage qui serait intéressant, c'est Tracer, en fait. Parce que Tracer, quand elle est méta, elle peut le rester très très longtemps, ouais. Elle est restée très longtemps. Là, c'est le seul personnage qui l'a effacé, en fait, c'est la Brigitte.
Bah, bien sûr, qui était faite pour ça.
Voilà, elle était faite pour ça. Mais la Brigitte, quand même, est restée, a disparu globalement. Donc, c'est le seul personnage, on pourrait dire, intéressant. Mais c'est vrai que le recrutement de Fipsa, pour moi, c'est un coup de com'. Et au cas où, si vraiment Doomfist devient vraiment important, bah, on le fera venir. Mais c'est sûr que ça créera des reacts dans le chat, pas plus.
Oui, parce qu'en plus, c'est le frère de Christopher qui est assistant coach aussi chez Philly. Ouais. Bon, je comprends qu'ils ne veulent pas qu'on parle de népotisme ou quoi, et que peut-être qu'ils ont vraiment réfléchi à la question. Peut-être que ce n'est pas parce que Christopher est là, mais ça reste pour moi un move un peu bizarre. Après, ouais. Le reste du groupe est très expérimenté. Il y a quand même 4 joueurs qui étaient là depuis le début de la saison 1, Carpe, Poco, Sado, même s'il n'a pas trop joué en saison 1, et Boombox. Là, il y a et Yukio, du coup, qui était aussi là en saison 1. C'était arrivé, peut-être stage 2.
Stage 2 ou 3, ouais.
C'est ça. Bon, donc il y a un fort cœur de joueurs qui a de l'expérience. L'arrivée de Fury, les gens qui écoutent ce podcast régulièrement savent que c'est mon joueur préféré. Et il apporte énormément là-dedans. Quid de Poco, du coup, dans l'effectif, est-ce qu'il continuera de jouer ou pas?
C'est la grande question.
On verra, à voir. S'il reste sur le banc, peut-être qu'il...
Ils ont déjà un élément de réponse. Ça, c'est vraiment les questions qu'on peut pas... Enfin, ça, c'est vraiment les choses...
La méta.
Scrim, ils ont déjà un élément de réponse déjà en scrim, mais nous, on n'a pas accès au scrim. Donc,
non.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va découvrir là. On pourra que commencer à réfléchir. Mais pour moi, Poco, c'est quand même le joueur emblématique. Mais c'est parce que c'est que le joueur emblématique, pour moi, il va peut-être commencer la saison. Enfin, si on doit partir de spéculation, moi, je dirais qu'il va commencer la saison. Pas sûr qu'il la termine.
Ouais, c'est ça. Globalement, l'effectif est fort. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas un peu léger au poste de DPS? Carpe, oui. Je trouve que Carpe a été moins impactant l'an dernier qu'il a pu l'être. Et Chipsa, on l'a dit, il ne joue pas trop. Ivy, du côté de Toronto, c'était nul. IQO, faut voir. Il y a Izu qui va avoir 18 ans en mars. Donc peut-être que lui, Izu, qui est un recrutement coréen, donc un jeune recrutement qui a 18 ans en mars, qui vient de Runaway, qui est une équipe qui a produit beaucoup de bons joueurs de cette ligue.
Gros pic.
Voilà, lui, une fois qu'il sera là, ça ira mieux. Mais du coup, est-ce que sur le début de saison, Carpe peut suffire, Chaba?
Je sais pas trop, parce que Carpe, oui, comme tu l'as dit, c'est moins shiny qu'en saison 1, ce qu'il a produit l'année dernière. Bon, hormis la GOATS, hein, quand on est repassé sur une méta où les DPS étaient un peu plus à l'honneur, sur le stage 4 notamment, il n'a pas fait partie des joueurs de DPS qui ont impressionné, en fait. Tout le monde se rappellera des perfs DPS de Cori, par exemple, ou de Stratus, mais Carpe, je l'ai trouvé assez effacé dans cette période.
Ouais.
Et j'espère pour lui qu'il aura repris du poil de la bête, parce que c'est quand même leur pierre angulaire en termes de DPS hitscan. Ok, certes, il y a Issou qui va arriver après, mais ils ont besoin de Carpe, qui est, comme tu l'as dit, un joueur ancien du roster. Donc il y a aussi cette question de leadership naturel. Enfin, t'es là depuis le début, c'est à toi aussi de tirer ton équipe vers le haut. Donc ce serait dommage que Carpe, de par son niveau, tire son équipe vers le bas. Pour Ivy, je t'ai trouvé un chouïa dur, peut-être pas nul.
Il n'a rien apporté à Toronto Defiant, honnêtement.
En GOATS, ça allait.
Oui, voilà, donc super, on n'est plus en GOATS. Non.
Et pour Poco, peut-être que Poco, je sais pas, c'est une hypothèse, j'espère que ça se passera pas comme ça pour lui, parce que c'est un super joueur, peu importe que ce soit Diva, Sigma, Zarya, mais Zarya. À la base, c'est un spécialiste Zarya, et Fury est quand même beaucoup plus fort sur une Diva que sur une Zarya. Donc est-ce qu'il nous ferait pas un petit coup à l'esprit avec un Poco en mode super sub avec une Zarya?
Bah, on verra. Après, de toute façon, même si Poco joue pas, je les vois mal se séparer d'un joueur qui a une telle aura au sein de l'équipe et même auprès des fans, que ce soit en France ou même à l'international. C'est une des figures vraiment de cette équipe depuis, et de l'Overwatch League depuis le début. Hein, c'est un des joueurs les plus emblématiques. Je rappelle quand même que pendant deux stages en saison 1, on parlait des Poco bombes dès qu'il y avait une diva qui explosait quelque part. Donc voilà, c'est un joueur qui a marqué cette ligue. Et même s'il joue pas, je pense qu'ils feront quelque chose en sorte qu'il soit visible. Où est-ce qu'on les met l'an prochain? Tiens, moi j'ai marqué. Ah oui, alors moi j'ai mis 9e. J'ai peut-être été un peu dur avec eux. En fait, voilà, en le refaisant le truc. Et puis alors, je réalise que Chaba il a fait pire. Bon, ça va. mais bon, je suis peut-être un peu dur avec eux. Peut-être que j'étais un peu déçu aussi l'an dernier de leur saison. Ça peut faire mieux que ça. Aujourd'hui, je vois les équipes de devant plus fortes. C'est surtout ça. Mais bon, à voir. Ouais, alors ouais, parce que du coup, Tao il fait des gros yeux, mais bon, Tao tu les as mis 5ème.
Tao les a mis 5ème, évidemment qu'il te fait les gros yeux si tu les as mis 9ème.
Ouais, non, mais pour moi, je les vois, enfin, moi je les trouve forts en fait. Après, après, c'est toujours, enfin, bref, moi, s'ils arrivent à créer un collectif, et je me dis pourquoi pas, parce qu'ils ont renforcé avec des Coréens, donc je me dis qu'il y a plus de Coréens que l'année dernière, je me dis que Fusion, ils sont capables, voilà, ils ont quand même des super DPS, Eevee. On peut pas vraiment juger parce que si c'est quand même Defiant, c'est quand même un collectif largement à la dérive. Donc moi je vais lui redonner une seconde chance. Mais moi je crois, enfin vous voyez, il y a quand même des joueurs, enfin il y a quand même le joueur de fin qui venait de London Spitfire, Sado, enfin c'est non pas Sado,
Fury,
pardon, Fury excuse-moi, Fury qui est quand même, c'est quand même un monstre. Enfin je trouve que il y a quand même un effectif qui est plus que réjouissant. Et je les vois, si ça se passe bien, moi je les vois très haut. Cinquième.
Shaba, du coup, dixième, toi.
Ouais, bah dixième, parce que j'ai ce qui me fait très peur dans leur équipe, c'est le poste de main tank, en fait. Je veux dire, Sado, c'est l'inconstance à l'état pur. Et ouais. Sado, il est tout seul à être main tank. Donc, si ça se passe pas bien avec Sado, bah, on garde Sado. Et quand Sado, ça se passe pas bien, comme tout à l'heure, tu disais pour Benbest, Atao, quand il a un match sans Sado, c'est un sacré match sans, hein, aussi. Il fait pas les choses dans la demi-mesure quand il est pas bien dans un match. Donc ça m'interroge beaucoup. Après, pour cette équipe.
En restant, ils sont quand même arrivés en finale avec un coach, avec un tank comme assez moyen, tu vois.
Fraggy, oui, non, bien sûr, mais ça dépendra des méta et puis on verra.
Bah, Fraggy, à part soulever les bras et dire je suis un viking, bon.
Ouais, mais c'est rigolo.
Il était vendeur lui aussi.
C'est vrai. Bah attends, le duo Fraggy Fraggy Poco, moi j'adorais. Le premier match des fusions, ce sera contre Washington le dimanche 16 février à minuit. Donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et ça se jouera à Philadelphie. Ils joueront à domicile pour leur premier match de la saison.
Wells Fargo.
Exactement, avant la nouvelle Fusion Arena qui doit arriver pour la saison 4 du coup. Athéo me fait signe, on enchaîne. On enchaîne avec Washington Justice, la dernière équipe de cette conférence atlantique. Washington Justice, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Washington Justice, ça a donné quoi leur mercato? Je me le remets très vite sous les yeux. C'était assez tranquille, si je me souviens. Mais ça c'était déjà en cours de saison. Ils ont pas joué parce que
problème de visa.
Ouais, c'est ça.
Comme d'habitude.
Comme d'hab. Voilà. Non, alors l'arrivée, la grosse arrivée, c'est Roar au poste de main tank. Il y a Tuba, je sais pas, il faut prononcer les deux T. Tuba, en DPS. Et M-God. M-God, il jouait où l'an dernier? Il jouait pas à Boston? Ouais, c'est ça. Boston Uprising. Et c'est surtout dans le coaching staff. On a fait venir John Galt, qui était chez les Gladiators. On a fait venir Bolin aussi, qui était. Alors lui, il est bien parce qu'il était.
Chez les Gladiators.
Ouais, il était Gladiators, mais il était. Je sais, il avait un poste de community manager, je crois,
ouais,
en gros.
Ça, ouais.
Et là, il devient manager général.
Bolin, elle, au passage, c'est celle qui était manager général de l'équipe des États-Unis aussi.
Bien fait pour moi, le tiron, je suis vraiment un sale macho sexiste.
Voilà, elle était community lead des Gladiators et des USA, du coup elle passe general manager chez Washington cette année.
Okay. Eh ben c'est top, bravo, effectivement. C'était surtout pour souligner que tu passes quand même d'un poste de community manager qui est peut-être pas le plus impliquant dans les décisions in-game à general manager qui est quand même le poste le plus important.
Oh, la promotion est pas dégueu. Hein.
Non, mais c'est bien, c'est qu'elle doit la mériter. Et du coup, cet effectif, il y a un gros point fort qu'on a découvert en Stage 4 l'an dernier, c'est les DPS, Corée et Stratus. On leur a mis un petit rajout en la personne de Tuba, on verra s'il joue, mais normalement si les deux Américains tiennent le rôle qu'ils avaient l'an dernier, ça devrait aller. Lui, il arrive de Contenders Corée, Tuba, il a joué un peu avec O2 et après avec Bubble Burster Gaming, je ne connaissais pas cette équipe. Mais bon, il était en Chine après, il a joué un an en Contenders Chine, une saison. Donc voilà, les DPS clairement c'est le gros point fort de cette équipe. Après moi je me pose la question du roulement des tanks, et c'est ce qu'on mentionnait un peu dans Overwatch League 20 sur 20. Quel est l'intérêt de faire venir le duo LZG Livot si c'est pour mettre un Roar qui va probablement prendre la place d'un des deux?
Exactement, c'est ça. Pour moi Roar il va commencer titulaire à mon avis, le fait qu'on ait en plus John Galt qui soit le coach.
Non, il le connaît,
coach, il le connaît, voilà. L'Aurore, il a été performant. Bon, Luzi chez Livot, c'est des très bons joueurs, mais bon, c'est pas. Ils ont pas improve comme Roar, donc c'est sûr que Roar, il aura leur préférence. Après, ça, c'est encore des choix qui vont se faire en fonction des scrims de pré-saison. Et puis, bon, bah, il y aura Stratus et Cory. Voilà, ça va être l'étincelle de l'équipe. C'est sûr qu'on va se pencher sur eux pour. On va carrément se pencher sur eux pour ce début de saison. C'est vraiment les DPS occidentaux qu'on a envie de revoir en début de saison.
Shabba, Ark et M-God en support, c'est pas un peu léger, juste deux?
Bah si, justement, enfin, de manière générale, le roster est quand même assez léger parce que 3 DPS, 3 tanks, 2 supports, c'est sans doute l'effectif le plus court de la ligue. Non, je crois,
Spark peut-être, il y a encore moins, non?
Et ils ont fait deux recrutements récemment, Spark, donc ça a un petit peu étoffé tout ça. Alors oui, ça m'a l'air un peu limite. Ark, au final, est sur le stage 4, a montré de très bonnes perfs. Donc, je sais pas s'il a un niveau New York Excel sur saison 1, mais dans tous les cas, il est un meilleur niveau que quand il est arrivé à Washington. Donc, ça, c'est positif. Et M-God, bah, c'est comme Kellex en fait. C'est un joueur qui surnageait dans le marasme Boston Uprising saison 2 et qui est allé dans une équipe où pouvait s'exprimer avec une équipe qui va jouer quelque chose sans doute en saison 3. Donc, c'est très très bon move de la part à la fois de la structure et du joueur. Parce que M-God, c'était quand même pas non plus un support complètement naze sur le Zenyatta, en tout cas, et sur la Ana non plus. Donc c'est un roster intéressant. Voilà, c'est juste cette question de pourquoi ramener Roar alors qu'on a ramené un duo de tank. Bah, au final, je pense que c'est quand même aussi pour cette histoire de roster à fournir un peu. Parce qu'à tout moment, si Roar a un souci, c'est bien d'avoir le backup, quoi.
Oui, et puis bon, encore une fois, on a vu des recrutements un peu là récemment dans les équipes. Peut-être que les Washington Justice ont des joueurs sous la main et qui vont faire venir au début de la saison. Le classement du Power Ranking pour ces Washington Justice, tu vois, à l'inverse de Fusion, je les ai mis 6e, peut-être que je les ai mis un peu haut. Mais bon, j'ai été ébloui par leur performance l'an dernier, donc peut-être que je suis trop resté là-dessus. Ah bah, attends, on a fait complètement l'inverse, toi. Je suis en train de voir que Atao et moi, on a mis Justice et Fusion complètement à l'inverse.
Non, en fait, moi, je pense que pour moi, cette Justice, c'est vraiment une équipe que je vois aller en play-in, en fait. Clairement, pour moi, c'est une équipe que je vois aller en play-in, mais tu vois, je peux très bien les voir. Pour moi, je les ai mis 11e, mais je peux les voir très bien 10e, 9e, enfin, dans les play-in.
Dans les play-in.
Mais je les vois pas rentrer en play-off, en fait.
Ok.
Voilà, je trouve que l'effectif est un peu léger. Donc, même si pour moi, ils vont faire des super matchs et ils peuvent aller chercher des super perfs ponctuellement, je les vois pas aller en play-off.
Pas directement, en tout cas.
Non.
Très bien. Et toi, Shabba, tu les as mis
7e.
Pareil.
Moi non, c'est du top play-in, voire play-off, en fonction de comment ça bouge au-dessus d'eux. Tout comme je parlais tout à l'heure du noyau, on va dire 10, 11 jusqu'à 16, il y a quand même un paquet d'équipes entre le paquet 5-9, là, c'est quand même assez resserré aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et une équipe comme Washington, si elle tire son épingle du jeu en fonction des méta et de tout ce qui va suivre pendant cette saison, et que la légèreté du roster ne les embête pas, je pense qu'il y a moyen qu'ils tapent play-off direct. Mais pour moi, top play-in, c'est l'hypothèse la plus probable.
Eh bien, on verra. Leur premier match, on l'a dit, ce sera contre Philadelphie le dimanche 16 février à minuit à Philadelphie, dans la nuit de samedi à dimanche, vous ne courez pas. Et bien voilà, c'est tout pour ce premier épisode de preview sur la conférence Atlantique. Merci de nous avoir suivis. Pour réécouter tout ça, c'est comme toujours sur les plateformes habituelles, Spotify, encore Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast, enfin tout. Là où vous écoutez votre podcast, eh bien on est là. On est sur Twitter, évidemment, @nerfsdiscast. Atao, c'est @atao_lb. BC en majuscule.
Exactement.
Shaba, c'est Shabaloutre. Et moi, c'est at Raoul VDG. Tu nous avais dit ce que c'était, LBC ? Je ne sais plus.
Non, je ne vous avais pas dit, mais je ne vous le dirai pas.
Mais, moi, je crois que je sais quand même.
À chaque épisode, une
nouvelle tentative.
Aux auditeurs de mettre réponse au tweet. Hein. Réponse au tweet, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire ?
J'aurais dit les Bretons croustillants, mais bon.
Moi, j'aurais dit la Berrichonne de Châteauroux.
Ce podcast devient complètement fou. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On revient très vite dans la semaine même avec la preview de la conférence Pacifique qu'on va enregistrer très bientôt. Et voilà, et on reviendra ensuite les semaines précédentes avant le début de l'Overwatch League avec plein de contenu, encore plein de choses. On a hâte d'être le 8 février pour le coup d'envoi entre Toronto et Paris. Et puis bah messieurs, du coup merci et puis à très vite pour un nouveau podcast.
Salut.
Salut.
Ciao, bisous. Faut que je lance le générique. Voilà. Heroes never die. Nerf this.